France Culture. Bonjour Dominique Schnapper.
Bonjour Caroline.
Deuxième temps de Nos Avoies Nues, consacré pour ce deuxième temps à votre travail de sociologue et peut-être au rôle de la sociologie dans la société, dans la cité, d'où ce titre d'une sociologie au cœur de la cité. Peut-être pour y venir, est-il important et intéressant de nous concentrer sur un des livres qui vous a fait connaître au grand public, parce que ça a été votre premier succès public, en 1994, c'est La Communauté des citoyens. Parce que dans La Communauté des citoyens, il me semble, je parle sous votre contrôle, vous posez les jalons d'un travail que vous allez poursuivre pendant 30 ans ensuite, et qui a déjà été en germe dans les livres précédents. Et vous le faites avec une méthode qui reste la vôtre. Donc il me semble important et intéressant de commencer par ce livre pour bien comprendre de quoi il retourne. Alors vous y développiez un thème qui est devenu central dans votre travail, qui est la tension entre l'universalisme républicain et les revendications identitaires à travers l'évolution de la nation dans les démocraties modernes. Vous aviez déjà travaillé et peut-être fait un travail précurseur avec La France de l'intégration, une sociologie de la nation qui était parue en 1990, mais là vous poursuivez avec une définition de la nation qui allait au-delà de l'opposition entre une dimension, disons, ethnique, celle qu'on entend souvent par la nation vue en Allemagne, et une dimension plutôt civique, qui est plutôt la conception, disons, l'acception française. Est-ce que j'ai à peu près résumé les choses correctement ?
Très bien, mieux que je ne saurais le faire. J'avais participé en 1987 à la Commission de la nationalité, présidée par Marsolon. Et ça a été un moment très important pour moi, puisque ça a été le premier dialogue d'abord avec les juristes, et ensuite de nombreuses réunions à discuter avec les uns et les autres. C'était une commission d'une très bonne qualité intellectuelle. Et évidemment, on a fait un rapport très politique, on était là pour ça. Mais avec le sentiment, j'ai eu le sentiment que j'avais autre chose à dire et qu'il fallait prolonger. Et c'est comme ça que j'ai écrit d'abord La France de l'intégration, qui était le prolongement de cette commission. Et puis j'ai été invitée en Israël par les anthropologues pour faire une conférence. Et j'allais pas expliquer aux Israéliens ce qu'était leur pays. Et donc je leur ai expliqué ce qu'avait été l'intégration de la France, comment la France s'était construite en intégrant successivement des régions différentes, puis des populations diverses différentes, et comment se construisait. Et comme ils étaient, comme les universitaires israéliens sont très près des universités américaines, ils étaient tous multiculturalistes et tout à fait contre l'idée de l'intégration républicaine. Et donc ils ont été extrêmement courtois et gentils. Mais le président de la Société des anthropologues israéliens m'a dit: vous savez, je suis à 99% en désaccord avec vous. Alors, on a plaisanté, je lui ai dit, pourquoi pas 100%? Enfin, mais avec votre théorie. Et alors, en rentrant, je me suis dit, au fond, il y a une théorie qui était implicite dans ce livre, et ça vaudrait la peine que je la sorte, enfin. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet du livre La Communauté des citoyens, qui est en effet le premier livre qui a atteint au-delà des sociologues professionnels, je dirais. Et en effet, dans ce livre, j'ai posé des thèmes que j'ai ensuite développés sur tel ou tel moment ou telle population, c'est-à-dire comment est-ce que l'universalisme républicain non seulement n'est pas contradictoire avec l'affirmation des fidélités particulières, mais est la condition d'existence des singularités qu'il rassemble. Et ça, c'est évidemment ce qui est un petit peu au cœur de ce que j'ai à dire ou de ce que j'ai essayé de dire. Je crois que c'est Bergson qui dit que l'œuvre de quelqu'un se résume toujours par une ou deux phrases, et celles que vous avez faites sont parfaites, elles me conviennent tout à fait.
C'est vous qui les avez prononcées la plupart du temps, voire écrites.
Non, mais vous les avez entendues.
Voilà, c'est ça. Alors je disais premier succès public, et vous le confirmez, et en même temps, ce livre a été mal reçu, en tout cas, par une partie du lectorat. Il a provoqué presque un malentendu. C'est-à-dire que il a été reçu comme un pamphlet souverainiste. À l'époque, on parlait beaucoup du souverainisme, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, disons. Or, vous en défendez. Ça n'était pas du tout cela. Comment expliquez-vous qu'il ait mal été perçu,
compris ? Il a été parce que, à l'époque, 94, ça fait tout de même quelque temps, quand on disait « nation », on était condamné au Front National. Or, il y a sur la nation une immense bibliothèque et c'est un immense problème. Et j'ai été critiquée d'abord par ceux qui, parce qu'il y avait l'idée de nation, pensaient que j'étais souverainiste, et aussi par les multiculturalistes qui trouvaient que je n'étais pas assez respectueuse des libertés de chaque groupe qui était réuni dans la nation. Mais l'effort était vraiment purement intellectuel, celui de comprendre ce que ça voulait dire et comment pouvait se maintenir une nation tout en respectant les individualités, les singularités, les particularismes et en étant ouverte sur l'universel.
Dans l'épisode précédent, le premier, vous disiez que contrairement à votre père, Raymond Aron, vous n'aviez pas, disons, été, dans ces années-là, une intellectuelle. Je ne voulais pas formuler comme ça, c'est moi qui le reprends. C'est-à-dire que vous disiez, je ne suis pas intervenue autant que lui dans les débats publics. Or, aussi bien en participant à cette commission longue de Marceau Long sur la nationalité en 1987, que bien plus tard, et on va y revenir en étant membre d'un certain nombre d'autres commissions, qu'avec les thèmes qui ont été les vôtres dans cet ouvrage, notamment la communauté des citoyens, il me semble que d'emblée, même si vous ne le vouliez pas, vous pesiez sur le débat public.
Oui,
à l'époque, il y avait quand même déjà un débat entre les républicains, les démocrates, les universalistes, les identitaires, toutes les imperfections de la démocratie, et vous vous empariez en sociologue. Vous vous empariez de tous ces thèmes. Donc, vous pesiez sur le débat public.
Mon travail portait, c'est comme vous le dites, mon travail portait sur des sujets qui font partie du débat public. Donc, d'une certaine façon, on peut dire qu'ils pouvaient avoir une certaine influence sur le débat public. Mais en même temps, c'était des livres, c'est-à-dire je n'intervenais très peu dans les médias, pas du tout dans les partis politiques, sauf quand on me demandait, chaque fois qu'on m'a demandé, à gauche ou à droite, de venir parler, j'ai toujours accepté. Je trouvais que c'était normal, que c'était le prolongement normal. Et puis, je ne faisais pas d'analyse politique directe. Je ne disais pas, il faut voter de telle ou telle façon. Je n'étais pas engagée comme, étant donné sa philosophie, mon père l'a été toute sa vie, en pensant qu'il menait à la fois la connaissance abstraite et l'engagement politique. Je n'étais pas engagée dans ce sens-là. Je traitais simplement de sujets qui avaient un horizon politique et qui, par conséquent, pouvaient être pris dans le débat politique. Mais j'ai très peu pratiqué, je n'ai pas été à l'heure de vérité. Enfin, je veux dire, je n'ai pas pratiqué comme il a pu le faire l'intervention dans les médias qui, à l'époque, étaient primordiaux.
Est-ce qu'on peut s'interroger sur la tradition sociologique qui est la vôtre ? Vous disiez que vous aviez été formé par Pierre Bourdieu au Centre de sociologie pendant 5 ans dans les années 60. Vous êtes ensuite entrée comme directrice d'études à l'EHESS en 1981. À côté de Pierre Bourdieu, que vous avez laissé en 1968, quels ont été vos maîtres à penser, de qui vous sentez-vous proche, Dominique Schnapper, dans le travail sociologique?
Je m'intéresse beaucoup plus à la politique et aux dimensions politiques de la vie sociale que la majorité des sociologues. D'ailleurs, ils ne m'appellent plus sociologue, ils pensent que je ne fais plus de la sociologie, que je fais de la science politique ou des essais politiques.
Ah bah c'était ma question suivante, la distinction entre sociologie, philosophie, politique. Qu'est-ce que vous faites?
Les sociologues sont les sociologues purs et durs, disons, dans la tradition, en tout cas dans la tradition française telle qu'elle est, s'intéressent peu à la politique, ils s'intéressent au social en tant que tel. Et par conséquent, la politique leur paraît, pour reprendre des termes marxistes, une espèce de superstructure qui n'est pas essentielle. Et c'est ce que j'ai du moins en commun avec l'héritage de mon père, c'est que je pense que la politique est importante pour faire comprendre ce qu'est la société. Et les meilleurs de mes étudiants, qui ne sont pas sur cette position, qui font vraiment de la sociologie pure et dure, ne le pensent pas, mais la majorité des sociologues pensent que j'ai déraillé de la sociologie, que je suis devenue politiste. Bon, je ne réclame ni l'un ni l'autre. Je poursuis ce qui me paraît juste et d'une certaine façon ce qui m'intéresse. Et dans cette mesure-là, bon, comme tous les sociologues, j'emprunte beaucoup à Max Weber parce que c'est quand même le sociologue. J'emprunte la méthode sociologique qu'a établie Durkheim en France, sans me sentir très durkheimienne, mais j'y trouve des échos et je trouve que sur la démocratie, Tocqueville a eu les intuitions les plus géniales. Dans certains jours, je me dis, je ne fais jamais que de la paraphrase avec de nouveaux arguments, puisque c'est 150 ans après lui. Oui, au moins, ou 160 ans après lui. Je ne fais jamais que de la paraphrase de Tocqueville avec des éléments nouveaux recueillis par la sociologie.
Une méthode, dites-vous, que vous empruntiez en partie à Durkheim, mais une méthode que vous analysez, développez, examinez très longuement dans un livre qui est fondamental aussi bien du point de vue de la méthode que du point de vue du fond des thèmes abordés, c'est la relation à l'autre. Dans la relation à l'autre qui est apparue en 1998 et puis qui a été réédité en 2023 avec une préface inédite, vous développez à la fois les théories modernes du lien social, vous vous intéressez aux relations interethniques, à ce concept d'ethnicité, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde. Mais vous vous regardez aussi en tant que sociologue qui travaille avec le regard sur l'approche ou la démarche sociologique. Et en plus, je crois que c'est le livre qui a le plus compté pour vous. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais oui. Il fait plus de 800 pages.
Si je ne voulais qu'on garde de ce que j'ai fait le souvenir que d'un livre, c'est celui-là que je donnerais. Plus que La communauté des citoyens, qui me paraît plus léger que La relation à l'autre et qui l'a précédé d'ailleurs. Enfin, c'est les deux sont liés. Mais c'est en effet La relation à l'autre où je crois qu'il y a l'essentiel de tous les problèmes que j'ai traités, de l'universalisme et du particulier, de l'unité de la nation et en même temps de la liberté de chaque groupe de rester fidèle à une histoire. Enfin, je pense que c'est, et le livre est fondé sur la connaissance sociologique, c'est-à-dire que c'est ce qui distingue des essais où on donne des idées. Les livres de sociologie présentent des idées, mais en essayant de les démontrer d'une manière aussi rigoureuse que possible. Et là, l'enquête, enfin, portait sur la manière dont la littérature sociologique a traité ces problèmes. Et c'est le livre, d'une certaine façon, auquel je tiens le plus, même si par sa taille et justement son ambition, c'est pas celui qui a eu le plus d'écho, puisque comme vous l'avez dit, c'est La communauté des citoyens qui a eu plus d'écho. Mais sans doute, l'écho était dû à la réinterprétation politique qui en a été faite, alors qu'on pouvait pas faire de réinterprétation politique de la relation à l'autre. C'était trop savant, d'une certaine façon.
Alors, est-ce que on peut creuser un peu sur cette relation à l'autre, en pensant qu'on ne s'adresse pas qu'à des étudiants en sociologie, Dominique Schnapper?
J'espère.
Comme c'est un livre savant, oui, c'est en quelque sorte comment la sociologie, la tradition sociologique, permet de comprendre les écarts entre, disons, des principes proclamés et des réalités. En l'occurrence, les principes proclamés de l'universalisme, de la démocratie, et puis la réalité des discriminations et des inégalités. Et c'est à la fois ce sujet-là et comment l'histoire sociologique dans différentes régions du monde l'ont appréhendé.
Oui, ça c'est un des autres thèmes que j'ai beaucoup développé, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le titre du dernier livre sur les désillusions de la démocratie, c'est-à-dire comment peut-on penser les décalages, les écarts, les décalages qu'on ne peut pas ne pas constater entre les principes de la démocratie et la réalité sociale telle que nous pouvons l'observer, la comprendre et l'analyser. Et du coup, c'est indirectement une défense de la démocratie qui, par définition, déçoit les démocrates, puisqu'elle ne peut pas être conforme à la promesse républicaine. Et ça, c'est un thème très, très central.
Central, et dans votre œuvre, et central, évidemment, dans notre vie, qu'on y reviendra aussi. Ce sera le sujet de notre dernier épisode. Dans ce livre, La relation à l'autre, comme dans La communauté des citoyens, comme dans tous les livres qui ne sont donc pas des essais, on a bien compris, oui. Dominique Schnapper, mais des livres de sociologues, comment vous y prenez-vous? C'est-à-dire, ce sont quand même des livres de philosophie politique, même si c'est de la sociologie. On a idée que le sociologue, il est sur le terrain, il enquête. Vous enquêtez beaucoup dans des livres, donc, dans des idées puisées à droite, à gauche. Quelles sont vos sources?
Les enquêtes sont différentes. Il y a des enquêtes sur le terrain. On a fait avec Chantal Borde-Benayoun et Freddy Raphaël, une enquête sur les populations juives, une enquête quantitative classique, je crois, respectable, parce que on voulait voir ce qui était devenu la réalité de la condition juive à cette époque-là. Comment elle s'était transformée depuis les premières enquêtes des années 80, parce que le premier livre que j'écris sur les Juifs, c'était sur des enquêtes des années 70. Donc, on voulait voir l'évolution. Donc, il y a certaines enquêtes qui sont des enquêtes de terrain tout à fait classiques, le travail sur le chômage. Il y a une centaine d'entretiens systématiques. Bon, il y a d'autres cas quand, sur les problèmes de la nation, l'enquête est très souvent historique. C'est-à-dire, c'est les faits historiques qui servent à ma démonstration. Comment s'est construite telle ou telle nation. J'avais eu un projet à un moment donné de faire un travail collectif en faisant travailler certains collègues qui comment s'est faite la nation bulgare, comment s'est faite la nation finlandaise. Enfin, on n'a pas fait parce que les travaux collectifs souvent n'aboutissent pas. Mais l'enquête historique est très souvent un élément de... Et d'autre part, il y a toutes les autres enquêtes qui sont faites par mes collègues. Je veux dire, j'utilise les statistiques les plus rigoureuses que nous produisent la bureaucratie française, les données de l'INSEE, les travaux de mes collègues dont j'utilise les résultats. Donc, suivant le sujet, l'enquête est de nature différente. Quand j'ai écrit sur les différentes communautés juives, je pouvais pas faire une enquête sur toutes les communautés juives, c'était dans l'histoire et dans l'espace très différent. Donc j'ai pris la littérature qui lui était déjà consacrée, la littérature sociologique ou la littérature tout court, qui était consacrée à tel ou tel projet. Donc ma méthode conjugue à la fois l'ethnologie des enquêtes sur des terrains très particuliers, l'enquête statistique, parce que sur certains problèmes, il faut une enquête statistique si on veut savoir si la France devient plus pauvre ou moins pauvre, il faut regarder les données statistiques. C'est pas une idée. Il y a des données statistiques qui permettent d'approcher ce qu'on peut appeler la vérité. Donc, il faut être ethnologue sur certains milieux. Il faut prendre l'histoire comme donnée pour d'autres problèmes. Et il faut éventuellement prendre la littérature sociologique comme enquête pour encore un autre type de recherche et de production.
Sans oublier l'observation assidue et rigoureuse du temps présent.
Oui, parce qu'on en est, enfin.
Surtout quand on travaille sur la République, la démocratie, la citoyenneté,
oui,
la laïcité.
C'est difficile de ne pas, de ne pas tenir compte du temps présent.
Dominique Schnapper, à côté de ce travail de sociologue, je crois que vous distinguez vraiment de façon précise et sérieuse la position du sociologue de celle du citoyen. Mais malgré tout, vous avez participé à un certain nombre de commissions. La première était effectivement celle de Long, Marceau Long, en 1987. Il y en a eu beaucoup d'autres. 1989, la commission 2000 du commissariat général au plan. 1993, la commission du bilan chargé de faire État de la France auprès du Premier ministre Édouard Balladur. 1994, la commission sur la drogue, présidée par le professeur Roger Henrion. 1995-96, la commission sur l'éducation, présidée par Roger Fauroux. Quel rôle vous donnez-vous quand vous participez à ce type de commission ?
La seule qui a eu, enfin la première, c'est-à-dire la commission de la nationalité, a été à la fois la plus importante par son effet et la plus nourrissante pour ma propre réflexion. Les autres commissions ont eu un rôle beaucoup moins important de façon générale et pour moi en particulier. Donc les autres commissions, il me semblait que il était naturel que, étant donné le projet intellectuel qui était le mien, dans la mesure où l'on pensait que ça pouvait avoir une certaine utilité d'éclairer, pour reprendre le terme de Durkheim, l'action publique, n'avais pas de raison de refuser d'y participer quand on me le demandait. En tant que sociologue, oui. C'était le cas aussi, je l'ai juste mentionné en passant, chaque fois que des partis politiques qui souhaitaient réfléchir sur tel ou tel chemin m'ont demandé de parler, j'y ai toujours été, que ce soit à gauche ou à droite. Certains partis ne m'ont pas demandé, donc je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Je me souviens, par exemple, de Jean Poprenne qui m'avait invité à une réunion des responsables du Parti socialiste. C'était au moment de la guerre du Golfe. J'ai protesté contre le fait que le président de la République avait parlé de la communauté juive et de la communauté musulmane en disant qu'il n'y avait pas de communauté juive, pas de communauté musulmane, et qu'il y avait des populations de tradition juive et de tradition musulmane, mais que la reconnaissance d'une communauté me paraissait contradictoire avec l'idée républicaine. Et j'ai été applaudie par la moitié et pas du tout par l'autre. Et en le disant, j'ai pensé, c'est quand même merveilleux la démocratie. Moi qui ne suis rien, je peux dire du président de la République en exercice en ce moment qu'il a dit quelque chose de mal. Et tout en le disant, j'avais un moment de volupté à penser que voilà, ce régime où on peut donner un argument contre le puissant.
Donc vous pensez quand même que le sociologue, en tous les cas la sociologue que vous êtes, peut avoir un rôle public. Non seulement éclairer l'action publique, mais aussi faire œuvre publique, que vos travaux seront susceptibles de nourrir la réflexion des pouvoirs publics.
Je le souhaiterais. Il me semble qu'il serait souhaitable que la réflexion sociologique, aussi raisonnable que possible, puisse aider les décideurs à prendre des décisions. En tout cas, il me semble que ça fait partie de même qu'un historien de l'art fait une collection de tableaux. Il me semble qu'un sociologue qui traite des problèmes dont j'ai traité doit trouver un débouché, je dirais, normal de contribuer dans la mesure où on le lui demande à proposer le résultat de ses travaux, puisque bien évidemment, les militants d'un parti politique, ils lisent pas les travaux de sociologie. Donc il faut venir leur en parler.
Ils ne lisent pas ou ils ne lisent plus? Vous qui avez connu plusieurs...
J'avais eu de très bonnes relations avec Jean Poprenne, qui était un véritable intellectuel, et qui m'avait dit après, vous savez, il y a quelques années, j'aurais pas pu vous inviter, parce que le multiculturalisme régnait sur le Parti Socialiste, et c'est maintenant qu'il faut mener le combat. Et puis il est mort très peu de temps après, donc j'ai plus eu de relations directes avec le Parti Socialiste. Marisol Touraine m'avait invitée, elle me connaissait par l'intermédiaire de son père, où j'ai été parler à un petit groupe de gens qui n'avaient pas l'air très intéressés. Mais enfin, j'ai été leur parler de la nation républicaine. Ça me paraissait normal. Si vous voulez, ça me paraissait une suite normale. Alors, cela dit, que ces travaux qui veulent être aussi objectifs que possible soient en lien avec certaines convictions, je suis la première à le reconnaître. Je veux dire... C'est l'évidence. Mais j'essaye...
On a commencé à les entendre, ces convictions-là.
J'essaye que mes travaux soient aussi rigoureux et objectifs que possible.
Tout le monde, hein, je pense, essaye de faire en sorte, quand on se dit sociologue,
philosophe,
historien...
Je ne suis pas du tout polémiste, comme vous avez remarqué, malgré mes convictions.
Est-ce que c'est aussi pour ces raisons-là, Dominique Schnapper, c'est-à-dire... peser, si tant est que possible, sur les pouvoirs publics, sur l'action publique. Est-ce que c'est aussi pour ces raisons-là que vous avez accepté d'intégrer le comité des sages de la laïcité à l'école, mis en place par le ministre de l'époque, Jean-Michel Blanquer, en 2017?
Oui, c'était du même ordre, si vous voulez, que, étant donné mes convictions, disons, républicaines, qui comportent la dimension de la laïcité, à partir du moment... où je pouvais avoir la vanité de penser que je pouvais être utile en tant que présidente de ce conseil, qui était formé de gens qui avaient des opinions très différentes. Donc il fallait une présidence qui soit acceptable pour des raisons différentes, par des gens différents. Il était naturel d'accepter.
Quel rôle a eu ce comité jusqu'à aujourd'hui?
Je crois qu'il n'a pas été nul. Nous avons fait beaucoup de travail... en publiant beaucoup de textes, beaucoup de un vade-mecum de la laïcité, qui, je crois, est très utile.
Dans les écoles.
Dans les écoles, dans tous les établissements scolaires, à tous les niveaux.
Oui, école
nous
avec
avons un... participé à un grand plan de formation sur la laïcité, parce que ce qui est très frappant, c'est que la laïcité qui, pour nous, enfin, qui, en tout cas, pour ma génération, allait de soi et n'était l'objet d'aucune discussion, parce qu'elle était acquise et elle avait apporté la paix, est très mal connue, très mal comprise.
Et devenue sujet de crispation.
Et donc, il y avait là, semble-t-il, un combat intellectuel à mener, de faire connaître ce que c'était, d'en expliquer à la fois les vertus, les limites, comme toujours, mais de montrer combien elle était étroitement liée à l'idée démocratique en France, que c'était une caractéristique française et que les Français, comme les autres pays, ont droit à la continuité historique.
Il y a une dernière commission, comité, conseil que j'aimerais aborder, Dominique Schnapper, avec vous. C'est la délégation, c'est une délégation en l'occurrence, la délégation internationale à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, dont vous avez présidé le conseil scientifique de février 2016 à janvier 2019. Vous n'étiez pas seul dans cette fonction. Il y avait à vos côtés, je crois, Smaïl Nacher. Et cette délégation a été dissoute en 2023, par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de l'époque, Isabelle Rome. Quel était le rôle de cette délégation? Qui faisiez-vous? Et pourquoi a-t-elle été dissoute?
Ça a été très très court. Je veux dire, je l'ai présidée pendant un an, parce que la deuxième année, j'ai été nommée au Conseil des sages et je leur ai expliqué que je ne pouvais pas participer aux deux institutions et que ma place était au Conseil des sages de la laïcité. Donc j'ai eu vraiment très très peu de rôle, et d'après ce que j'ai entendu, il y a eu un conflit assez violent entre des groupes qui luttaient aussi contre l'antisémitisme et d'autres qui ne voulaient lutter que contre ce qu'on appelle l'islamophobie. Enfin, il y a eu un conflit de conception scientifique qui a fait que finalement la délégation n'a servi à rien et a été supprimée. Mais je ne suis pas compétente. J'ai vraiment présidé au démarrage et ensuite ça a été mis dans les mains de quelqu'un d'autre.
Pour que vous vous concentriez sur le comité des sages de la laïcité.
Oui, parce que là, il y a eu beaucoup de travail. Enfin, nous avons beaucoup produit. Nous avons beaucoup participé à ce plan de formation soutenu, discuté avec les référents laïcité qui ont été organisés par Jean-Michel Blanquer dans les différentes académies. Il y a tout un réseau et tout un circuit de personnes qui mènent ce combat à l'intérieur du monde éducatif pour faire appliquer la loi. Simplement, pour faire appliquer les lois du code de l'éducation.
De la même façon que vous disiez tout à l'heure que vos travaux visaient notamment à éclairer l'action publique, est-ce que, à l'inverse, ces différents passages, ces différentes contributions qui ont été les vôtres au sein de diverses commissions, vous ont servi comme sociologue en retour?
La commission de la nationalité, de façon évidente, ça a été central dans ma réflexion, ce dialogue. Les autres ont été beaucoup moins fructueuses. La commission sur le bilan parlait des finances publiques, sur lesquelles je suis très, très, très peu compétente, c'est peu de le dire.
À vous demander pourquoi vous y étiez presque.
Absolument, oui.
On retiendra la nationalité, on retiendra la laïcité.
Oui, là, c'était des sujets que je connaissais et où j'avais le sentiment que ça n'avait pas été inutile.
Voilà qui nous emmène presque naturellement à l'épisode suivant, l'épisode 3, puisque vous vous retrouvez, alors là, dans un univers qui n'était pas du tout le vôtre au départ, le Conseil constitutionnel, où vous avez quand même passé 9 ans, à l'exclusion de tout autre travail. Nous verrons cela dans le prochain épisode. Merci et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Dominique Schnapper, réalisation Assia Weber, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.